Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale examine l'œuvre de Le Corbusier. En juillet de cette année, 17 réalisations de cet architecte franco-suisse ont été inscrites pour la première fois sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au mouvement moderne. Créées durant un demi-siècle et dans trois continents, ces œuvres classées témoignent de l'invention d'un nouveau langage architectural en rupture avec le passé. Pour en savoir plus sur l'importance de Le Corbusier sur le XXe siècle, nous nous sommes entretenus avec un spécialiste en architecture et en planification urbaine, Francesco Bandarin, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture.
Peut-être la figure la plus importante et iconique du XXe siècle. C'est la personne qui a refondé, réinventé, réorganisé toute la pensée architecturale. On est en face de la personne qui a sonné le changement, a donné la direction du changement. Déjà aux années 20, il a établi les nouveaux principes de l'architecture moderne. Donc en utilisant évidemment les bétons armés, en éliminant toutes les parties décoratives de l'architecture et surtout en essayant de trouver des solutions techniques pour le logement des masses. Parce que vous savez, après la Première Guerre mondiale, le problème c'était comment loger les masses. Hein? Et ça, tous les architectes de l'époque se sont toujours confrontés avec ces grands problèmes. En même temps, un grand, disons, valeur esthétique, vous savez, le purisme architectural le plus poussé, dont par exemple certains des éléments qui ont été associés à cette inscription, à la ville Savoie, à Paris par exemple, est un représentant de cette forme de purisme. Évidemment, donc, une grande forme, disons, une grande valeur esthétique et en même temps une grande valeur sociale, parce que c'était des bâtiments et des propositions architecturales qui essayaient de donner des solutions aux grands problèmes de l'habitat moderne. Évidemment, l'architecte a travaillé toute sa vie dans plusieurs endroits du monde. Et dans cette longue carrière, parce qu'il est mort en 65, il a pu, disons, donner des contributions aussi à beaucoup d'autres chemins de l'architecture. Donc, c'est un architecte qui a un peu parcouru et donné des contributions à plusieurs, disons, filières de l'architecture. Ça a été très bien reconnu par cette nomination qui identifie un certain nombre, pas toute l'œuvre, évidemment, c'était pas possible. Il y a une soixantaine de constructions de Le Corbusier, mais nomination à mais seulement 17. Mais de différents types. Bon, je parlais de la réponse à la question de l'habitat de masse, par exemple l'unité d'habitation de Marseille, autre formule qu'il avait, auquel il avait travaillé après la guerre. Mais il y a aussi, disons, l'invention de l'architecture sculpturale, par exemple la chapelle des Ronchamps, ou le couvent de la Tourette, ou les réalisations qu'il a fait en Inde, à Chandigarh. Et en plus, il faut savoir qu'il était un écrivain et aussi un peintre de grande valeur. Ses peintures sont, les dessins, peintures sont très, très considérés aujourd'hui. Il a fait même aussi des tissus, de tapisseries, maintenant, qui se retrouvent même chez nous, à l'UNESCO. Il y en a une ou deux, ce qui a été donné par l'architecte à l'époque de la création de ces bâtiments, auxquels il a participé d'ailleurs, parce que Le Corbusier, comme vous savez, était dans la comité qui a décidé la réalisation du bâtiment de l'UNESCO et du bâtiment des Nations Unies à New York. Donc, c'était un architecte qui était vraiment considéré la figure la plus importante de son époque.
Comme vous le décrivez, son œuvre est vraiment impressionnante, mais il y avait toutefois eu plusieurs tentatives pour inscrire son œuvre au patrimoine mondial dans le passé. Quels ont été certains des débats qui ont précédé cette inscription ?
Vous savez, les débats étaient, disons, des natures internes, parce que quand on inscrit un site ou un élément dans la liste du patrimoine mondial, il y a tout un système de critères qu'il faut suivre. Alors, dans ces cas-là, on n'avait pas proposé les promoteurs, qui d'ailleurs c'était la Fondation Le Corbusier et la France évidemment, et comme genre, chef de file d'une de ces sept pays, ils n'avaient pas proposé un seul bâtiment, ils avaient proposé une série, une série de bâtiments. Donc si la, on propose une série, il faut que la série tient, la série, pas les bâtiments. Les bâtiments, évidemment, personne ne niait que la ville de Savoie ou la chapelle de Ronchon avait la valeur exceptionnelle qui est demandée pour être inscrite. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un débat sur la valeur de l'œuvre. C'est un débat sur comment la série était proposée et si la série était vraiment représentative de ce qu'elle voulait représenter. Donc, il y a eu une certaine, bon, disons, une discussion. Ben, ça, c'est assez normal, d'ailleurs, pendant 6 ou 7 années. Et donc, la chose avait été proposée déjà 2 fois. Et chaque fois, disons, les organismes d'évaluation trouvaient qu'il y avait pas encore une cohérence de la série, pas des éléments individuels. Donc, je pense qu'on a un peu revu le modèle, les systèmes, les textes qui décrit la série. On a changé un peu la série, on a réarticulé la série pour lui donner une signification plus complète de l'œuvre du maître. Bon, c'est normal, on a simplement fait de l'ajustement.
Comme vous le dites, cette série d'œuvres qui ont été classées au patrimoine mondial, donc elle regroupe 17 sites qui sont répartis dans 7 pays différents. Ouais. Est-ce que cela représente des défis particuliers en termes de protection notamment ?
Je dirais oui, parce que certains sites sont bien aménagés, j'en connais presque tout d'ailleurs, mais ils ont un statut différent, certains sont publics, certains sont privés, certains appartiennent à un État, certains appartiennent à une communauté locale, certains à une fondation, donc il y a une différence, disons, des capacités et des ressources disponibles. Et en plus, certains se trouvent dans des zones géographiques qui sont peut-être un peu plus agressives, par exemple, je pense surtout à Chandigarh, qui est en Inde, donc un climat un peu subtropical. Quand je les visite, je vois toujours que ce béton, après 50 ans, commence un peu à souffrir. Alors, il faudrait des ressources pour les remettre, les repeindre, des choses. Donc, disons qu'il y a des problèmes d'entretien, voilà, plutôt que. Et en plus, certains sont très utilisés. Justement, à Chandigarh, les bureaux du Parlement sont surutilisés, le Parlement même est surutilisé parce qu'après, quand l'Inde et le Pakistan se sont divisés en 1947, la capitale du Punjab est tombée du côté Pakistan, c'était Lahore. Donc les Punjab indiens n'avaient pas de capitale, donc c'est pour ça que l'Inde a décidé de créer une capitale nouvelle. Et Chandigarh est la capitale du Punjab indien. Mais après, l'Inde a créé un autre État, qui s'appelle Haryana, qui est juste à côté, et qui n'avait aussi pas de capitale. Au lieu de faire une autre capitale, ils ont décidé d'utiliser la même capitale pour les deux États. Donc Chandigarh est capitale de deux États, Punjab et Haryana. Alors, tout bien, pas de problème, mais le problème, c'est que les deux États ont deux parlements, deux systèmes de bureaucratie. Donc, tout a été un peu partagé entre les deux États. Donc, parfois, on trouve que les bâtiments originaux de Le Corbusier ont été un peu partagés. Ça, c'est pas bien. Voilà, c'est une sorte d'altération de l'architecture originaire. Donc, il y a des choses comme ça. Mais disons que, dans l'ensemble, l'œuvre qui a été inscrite est en bonne condition. D'ailleurs, c'est un requis. Si le bâtiment n'a pas conservé son authenticité, etc., on ne le met pas dans la liste du patrimoine mondial. Par exemple, il y a à Moscou un bâtiment très important de Le Corbusier, qui est le seul qu'il a réalisé en Union soviétique à l'époque. Ça s'appelle le Centre Soyouz. Et ce centre a été complètement abîmé. Donc, on ne peut plus le mettre. Dommage, parce que c'est vraiment, c'était sa réalisation la plus d'avant-garde et tout ça. Donc, il y a des situations comme ça. Un élément, un site doit être protégé et entretenu avant d'être admis à la liste du patrimoine mondial. Et en plus, il doit être garanti sa préservation dans les longs termes. Ça, c'est l'engagement des États, mais aussi de ceux qui ont la responsabilité directe de la gestion.
Par rapport à ce bâtiment que vous venez de décrire à Moscou, est-ce que l'UNESCO a un quelconque recours pour essayer de préserver ou de restaurer ?
Oui, on a essayé. D'ailleurs, il y a un grand mouvement en Russie, soutenu par nous, mais surtout par l'association DocuMoment, qui fait la documentation et la conservation du mouvement moderne, et qui fait une pression énorme sur le gouvernement pour la sauvegarde de toute l'architecture d'avant-garde en Union soviétique. Dans les années 20 et début 30, l'Union soviétique a été le terrain le plus intéressant, le plus important, le plus dynamique et même spectaculaire, je dirais, des réalisations architecturales dans la planète. Simplement, tout ça a été un peu oublié. Donc, il y a eu des grands architectes, Melnikov, tout ça, qui ont fait des choses exceptionnelles. Puis après, avec le stalinisme, tout ça a été un peu oublié. Et disons, ça reste à la marge. Maintenant, ces bâtiments sont en condition un peu précaire, je dirais. Le cas de Le Corbusier est le même. Simplement était considéré un bâtiment comme un autre, était vendu, partagé, même propriété privée, alors on ne peut rien faire, c'est impossible. Donc, il faudrait une grande volonté de l'État russe, le reprendre, le racheter, le remettre. Pour le moment, c'est loin d'être fait. Donc, parfois, il faut savoir que pas tout est conservé. Puis, il y a certains d'autres bâtiments que je pense un jour, peut-être, pourront être ajoutés à cette liste, qui sont, par exemple, en Amérique. Il y a le Carpenter Center de Harvard, qui est vraiment fantastique. C'est un bâtiment, c'est le seul, d'ailleurs, bâtiment de Corbusier aux États-Unis. C'est un musée qui appartient à l'Université de Harvard, mais qui n'a pas été mis dans cette liste, parce qu'il faut que les pays qui sont intéressés rejoignent la liste. Les États-Unis avaient plutôt intérêt à soigner la nomination de Wright, et donc ils n'ont pas proposé ça. Donc un jour, peut-être, il y aura des évolutions, j'espère. Non, c'est pas fini. Mais vous avez vu que je parle beaucoup de l'architecture, aussi d'autres architectes. Effectivement, la liste du patrimoine mondial commence à avoir un certain intérêt pour cette expression et ce type de patrimoine moderne, et que je trouve très très bien, parce que moi j'étais, dès le début de mon travail à l'UNESCO, un peu préoccupé du fait qu'il y avait très peu, de dernier siècle et demi, il y avait très peu dans la liste du patrimoine mondial, parce que tous les pays mettent l'accent sur les choses archéologiques, justement archéologiques, ou bien sur le passé, mais du Moyen-Âge, la Renaissance, etc., etc., ou bien l'époque coloniale, mais pas sur le moderne. Donc on a même lancé, il y a une dizaine d'années, un programme spécial ici à l'UNESCO, s'appelle le programme pour le patrimoine moderne, qui sert surtout à faire connaître, à inviter, à stimuler les pays à considérer leur patrimoine moderne comme un vrai patrimoine mondial. Alors, je pense qu'on a commencé à convaincre un certain nombre de pays, parce qu'il y a eu le Mexique qui a présenté des choses très intéressantes, l'Université du Mexique, par exemple, la UNAM, est dans la liste du patrimoine mondial, la maison de Barragán aussi, et il y a d'autres qui vont venir. Il y a eu la Villa Tugendhat de Brno, la République tchèque qui est inscrite, et puis bon, bien d'autres, Gaudi, Horta, etc. Donc on commence à avoir certaines réponses des États membres à cette stimulation, hein, l'indication qu'effectivement l'architecture, certains architectes ont donné au siècle passé, et peut-être même maintenant, disons, de vrais patrimoines. Moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, l'Opéra de Sydney est inscrite. Donc, il commence à avoir des réactions très, très positives. Je pense que l'inscription de Le Corbusier cette année, et peut-être dans le futur de Frank Lloyd Wright, aura un grand impact. C'est un message très fort vers les États, considérer les beaux chefs-d'œuvre d'architecture contemporaine comme du patrimoine.
Donc, la liste du patrimoine changera sans doute beaucoup dans les années à venir, alors.
Sans doute parce que le patrimoine évolue, la perception du patrimoine évolue, même les catégories évoluent. Il y a de nouvelles catégories qui se forment, qui se créent, et l'intérêt des États pousse à certaines évolutions. Et donc on voit au jour le jour le patrimoine évoluer, et ça c'est bien parce qu'effectivement, moi je dis toujours, le patrimoine n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est un produit de la société. Donc c'est une expression de la société. Si la société évolue, le patrimoine évolue.
Et c'est avec Francesco Bandarin, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, que se referme ce magazine Escale consacré à l'œuvre de Le Corbusier. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.